Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine Feel Good, dédié au bien-être, au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Alors ce matin Mélanie, par quoi on attaque ?
Eh bien Julia, on va s'intéresser à quelque chose de très important, à la radio notamment, c'est la voix. On va tout vous expliquer sur notre instrument le plus précieux, comment fonctionnent nos cordes vocales, comment en prendre soin. On va faire le point avec une experte, le docteur Claude Fugain. Elle est médecin phoniatre.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura notre dossier santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur une pathologie qui concerne beaucoup de monde. C'est la maladie articulaire la plus fréquente, à savoir l'arthrose. Plusieurs millions de Français sont concernés. Et vous verrez que depuis 2 ans avec le Covid et notamment les confinements, l'état de ces patients s'est nettement détérioré. On en parlera avec Françoise Adiolonois. Elle est vice-présidente de l'AFLAR, l'association française de lutte anti-rhumatismale.
Ensuite, Julia, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs, toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui nous font du bien. Il y aura d'abord le docteur Oren Marco, alias docteur Beauty sur les réseaux sociaux. Il va nous faire découvrir ce matin le nano Botox. Ensuite, comme tous les mardis, il y aura la chronique sportive de notre coach Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, il va nous parler d'impédance-métrie, de ces balances, ces pèse-personnes, nouvelle génération qui permettent de tout mesurer, le gras, le muscle, l'eau. Il nous dira ce qu'il en pense.
Et enfin, Mélanie, on finira ce tour de table des tendances avec Édouard Dutour. Ce midi, il nous propose de faire un point sur la famille royale anglaise qui n'en finit plus de nous inspirer.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente de vous être vraiment utile au quotidien. Et ce matin, on va se plonger dans quelque chose qu'on utilise au quotidien, nos cordes vocales, avec cette question, la voix, V-O-I-X, hein, bien sûr, comment ça fonctionne ?
Alors oui, c'est notre outil de travail, mais tout le monde en a besoin de sa voix. Alors comment la chouchouter, éventuellement la soigner, la réparer si nécessaire ? On va détailler tout cela avec notre invité dans quelques minutes. Mais avant ça, c'est notre cher Clément Lanoux qui va s'emparer de ce sujet. Il a été faire quelques vocalises avec des gens dans la rue. Bonjour Clément.
Exactement, vous ne croyez pas si bien dire, vous allez voir dans un instant. Bonjour tout le monde, effectivement, un sujet qui nous parle, nous, à la radio. Une voix, on la travaille, on la pose, on essaie de la trouver, sa voix. Mais justement, quelle est la définition de la voix ? C'est un petit peu ce que j'ai posé comme question aux passants.
Ça permet de s'exprimer, de dire tout, nos pensées, nos idées.
Bah, ça joue un rôle dans ce qu'on exprime.
Bah ouais, on peut chanter, on peut parler, enfin on s'exprime avec, on exprime ce qu'on ressent ou quoi que ce soit.
C'est aussi une identité et ça définit une personne.
Bah parler, la phonation, crier, parler, hurler, bah voilà.
Eh oui, ça sert hurler, à pas mal de choses. Hurler, on va y revenir dans un instant, justement les fameux cris, ça sert aussi à séduire clairement une voix.
Alors moi, je suis très très sensible à la voix des garçons. C'est vrai que bon, peu importe leur âge, que ce soit, je sais pas, Marc Lavoine, Gérard Darmon, bah ça me fait quelque chose. Quoi. Moi, j'y vais direct, hein, ça c'est sûr.
La fameuse elle a bien voix choisi grave. Quand même, hein, elle a pris des bonnes voix là. Hein.
C'est les voix vraiment graves, très posées, où on s'écoute parler. Alors attention, à l'inverse, une voix peut aussi surprendre.
Oui, moi je trouve que la voix c'est hyper important. Il suffit que tu tombes sur une jolie fille magnifique et puis d'un coup qui dit ouais, ça va les gars, tranquille, on est bien, t'as vu ? Là, ça casse un peu le délire, quoi.
Effectivement, alors le plus important c'est d'avoir une voix qui va bien avec qui on est, d'être justement, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, trouver sa voix. Et on parlait tout de suite des cris. Effectivement, une voix ça peut se blesser quand on crie. Alors attention quand vous criez. J'ai demandé au passant, c'est quoi la dernière fois que vous avez crié ?
Il y a différentes sortes de cris. Des fois, c'est des cris vraiment très très forts, mais c'est du pétage de câble. Et puis des fois, c'est des cris où on crie, mais pour faire mine qu'on crie, quoi. Par exemple, sur ma petite sœur, je ferais « Va dans ta chambre !» Par exemple. Et si je péterais un câble, je serais en larmes, avec une voix beaucoup plus rauque, en criant beaucoup plus fort. Genre, je sais pas... Dehors !
Voilà. Oula, oui, ça fait mal aux oreilles,
donc on verra peut-être comment travailler sa voix. Attention, on peut se blesser en criant, en chantant également. C'est quand la dernière fois que vous avez chanté, vous ?
Samedi soir, parce que j'étais en soirée, du coup on a crié les chansons, on les a ressentis, on a vécu la chanson.
On a vécu la chanson, et puis je pouvais pas vous quitter avec un petit exemple. C'est quoi quand vous vivez une chanson, madame ?
Je suis démolie de l'intérieur, mais je garde le sourire à l'extérieur.
Donc voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'une voix, ça se travaille aussi, notamment pour la chanson.
Je suis démolie. Voilà.
Ça, c'est la version originale.
Ça, c'est Imen ES. Hein, voilà. La voix est bien posée. Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour cette petite entrée en matière très instructive déjà sur notre premier sujet du jour. On va à présent accueillir notre invité pour voir les choses plus en détail. Bonjour, docteur Claude Fugain.
Bonjour.
Vous êtes médecin phoniatre et donc à l'occasion de la semaine du son de l'UNESCO, on va parler aujourd'hui de la voix avec vous. Déjà, à partir de quand on s'est véritablement intéressé médicalement, scientifiquement à notre voix ?
En fait, il n'y a pas très longtemps que les médecins se sont intéressés à la voix. Bien qu'on savait depuis toujours que toutes les sociétés humaines les plus anciennes travaillaient la voix, les médecins se sont intéressés très tardivement à la voix, une cinquantaine d'années à peu près. C'était la voix des chanteurs, c'était l'affaire des professeurs de chant. Et les médecins ont surtout longtemps ignoré la voix sous l'angle de sa fonction, sous l'angle de la traduction d'une personnalité et encore plus son retentissement social ou professionnel.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, une voix ? Parce que nous, on a l'impression qu'on ouvre la bouche, voilà, ça sort, mais je crois que c'est bien plus compliqué que ça.
Alors, j'ai l'habitude de dire que les voix naturelles sont des voix qui ne sont pas encore abîmées. Si on doit chanter Verdi, si on n'a pas la bonne mécanique, on n'y arrivera pas. Mm-hmm. Même s'il y a des voix naturellement jolies, en fait. Donc, pour pouvoir parler, en fait, on a une succession d'étapes. On a une soufflerie avec une musculature très importante puisqu'il y a 300 muscles qui bougent quand on parle, quand on essaie de convaincre quelqu'un de quelque chose, ne serait-ce que ce que je suis en train de faire en fait. On a donc une soufflerie, un vibrateur, des résonateurs et un système articulatoire qui gère la résonance. Soufflerie, vibrateur, on fabrique la voix, la bonne voix, la voix adaptable. Quand vous parlez à un enfant, vous avez une voix. Quand vous jouez à parler dans un micro, vous avez une autre voix, ainsi de suite. Mm-hmm. Troisième étage, la résonance. Là, on fabrique la belle voix. C'est là qu'on fabrique le timbre, qui est le paramètre magique mm-hmm. des cordes de la voix. On aime ou on n'aime pas une voix sur son timbre. Donc, et puis ça, cela, c'est géré par l'articulation.
Clément ?
Est-ce que c'est quelque chose qui change au cours de la vie ? On le sait avec l'adolescence, mais est-ce que quelqu'un de 35 ans et de 45 ans, sans travail, a la même voix ?
On cherche désespérément à trouver des arguments pour dire qu'il y a un vieillissement de la voix.
Oui.
En réalité, rien ne peut être démontré. Il y a une étape, on est avec des cordes vocales qui mesurent 4,5 mm de long. Un chanteur basse arrivera à 30 mm.
Ah oui.
L'étape essentielle, charnière, c'est évidemment la puberté, avec ce que l'on appelle la mue, qui est particulièrement évidente chez les garçons, un peu moins chez les filles. À partir de là, la voix va moins changer avec l'âge qu'avec notre vie, qu'avec notre vécu. Quand on est triste, on a une voix. Quand on est gai, on a une autre voix. Et la bonne voix, ça n'est pas la voix placée qui serait placée de façon définitive, mais c'est une voix qui s'adapte au rôle que nous jouons.
Alors, quand on parle de la voix, on pense évidemment aux cordes vocales. Et c'est vrai que moi, je ne les ai jamais vues hein, visuellement, les cordes vocales, mais j'ai en tête que ça pourrait ressembler à des cordes de guitare. Or, je crois que c'est plutôt comme une trompette, en réalité, hein, que ça fonctionne.
C'est un peu ni l'un ni l'autre.
D'accord, bon, mais j'ai tort.
Ce sont deux bourrelets, deux lèvres, en fait, qui ressemblent beaucoup aux lèvres de l'articulation. Ce sont deux bourrelets qui vibrent avec la pression d'air. J'allais dire, les cordes vocales, ce n'est pas magique. C'est pas de la plomberie, mais un peu quand même.
D'accord.
Ce qui est magique, c'est ce que l'on va en faire. Et on va au-dessus de la vibration qui sort des cordes vocales est assez misérable. Elle ne va devenir intéressante que parce qu'elle s'enrichit en harmonique. Et ça, c'est la résonance. Et c'est ce qui se travaille le plus, d'ailleurs, quand on fait travailler la voix.
Mais est-ce qu'on a tous les mêmes cordes vocales ? Ou est-ce qu'elles grossissent ? Est-ce qu'elles changent au cours de la vie ?
La différence entre les hommes et les femmes, au moins c'en est une, c'est la grosseur du larynx.
Ah.
À la puberté, sous l'effet de la testostérone, les cordes vocales grossissent beaucoup. Chez le garçon, elles passent de, on va dire, 12 mm à 25-30 mm. Chez la petite fille, chez la jeune fille, ça va guère dépasser 23 mm. Plus la masse des cordes vocales est importante, plus la voix est grave. Plus la masse est petite, plus la voix sera aiguë. Les hommes ont un très large ambitus, enfin une très large étendue de voix, parce qu'ils ont des graves et aussi des aigus, même si en Occident, ils les utilisent assez peu.
Clément ?
C'est facile de changer sa voix pour quelqu'un qui ne l'aime pas.
On a Marc-Antoine Lebré juste avant, hein, voilà. Philippe Vandel qui lui est un magicien de la voix.
C'est un professionnel, mais sinon quelqu'un qui son travail comme ça n'aime pas sa voix, est-ce que comme de la chirurgie esthétique, il peut changer de voix ?
Vous n'êtes pas satisfait de la
vôtre ? Alors, il n'y a pas de chirurgie esthétique.
Moi, j'aime bien la mienne.
Il n'y a pas de chirurgie esthétique, mais ce que l'on peut faire, j'allais dire, à partir du moment où la hauteur dépend de la masse, on ne va pas la changer parce qu'il n'y a pas de musculation des cordes vocales. Par contre, on va jouer sur le timbre. La moitié des patients que nous voyons actuellement, une moitié sont des enseignants ou des commerciaux, l'autre moitié, maintenant, c'est des gens qui pensent qu'ils ont une voix inadaptée à leur fonction. Et c'est toujours le même reproche, trop aigu, trop petite. Petite voix, trop aiguë. Garçon comme fille, homme comme femme.
Très bien. Docteur Fugain, vous restez avec nous. On va continuer à donner de la voix ensemble sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. On vous explique comment fonctionne votre instrument le plus précieux, votre voix. Est-ce qu'une voix, c'est unique? Savez-vous aussi que chacun d'entre nous a plusieurs voix en réalité? Alors, on n'est pas tous capables de faire des imitations comme Marc-Antoine Lebret, mais on va creuser le sujet en tout cas ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On découvre aujourd'hui les secrets de notre voix. On en parle avec vous, docteur Claude Fugain. Je rappelle que vous êtes médecin phoniatre. Alors, admettons, si on n'est pas satisfait de sa voix, si on a une voix trop aiguë, vous l'avez dit, c'est une des plaintes principales en consultation. Est-ce que, si je suis chef d'entreprise, par exemple, je me dis, cette voix fluette, très aiguë, c'est pas l'idéal. Est-ce que si je viens avec vous, vous allez pouvoir me faire faire un travail pour la changer, cette voix, pour la muscler, ça se dit ça d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors muscler n'est pas tout à fait le bon mot puisqu'on ne muscle pas les cordes vocales, mais oui, une voix, ça se travaille. On peut guère modifier la hauteur justement à cause de cette masse, mais par contre on va beaucoup travailler au niveau du timbre. On va assombrir suffisamment la voix pour donner l'impression que la voix est grave. On ne peut pas diriger une entreprise. Enfin, j'appelle ça des voix inadaptées. Alors, je cite l'entreprise, mais ça pourrait être un avocat. Ça n'est pas possible. Donc, effectivement, on va travailler la voix.
Vous
ne
leur conseillez pas de se mettre à fumer pour avoir la voix plus grave.
Hélas, on ne va pas faire l'apologie du tabac, mais effectivement, c'est le plus gros aggraveur de voix.
Ah oui.
On le voit bien chez les femmes qui ont beaucoup fumé dans ma génération.
Moi, j'ai arrêté, mais ça ne m'a pas rééclairci la voix, pour le coup. Hein. J'ai
l'impression que vous n'étiez pas totalement intoxiqué depuis suffisamment longtemps, compte tenu de votre âge.
Mais vous avez une voix plus claire, non? Quand j'étais jeune, probablement, mais...
Mais d'ailleurs, vous citez cela et c'est très amusant. Beaucoup de gens qui s'arrêtent de fumer disent « j'ai perdu ma voix ». En fait, ils n'ont pas perdu leur voix, ils ont leur voix. La voix était aggravée par l'inflammation due au tabac et par l'œdème due au tabac. Mais la voix, ça se travaille très bien. Et je regrette qu'on ne le fasse pas à l'intérieur de l'école. On devrait travailler l'oral et la prise de parole dès le primaire dans notre éducation.
On a tout de même, docteur, l'impression que les voix deviennent plus graves avec les années. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? C'est une sensation, une
impression? D'une certaine façon, oui, parce que les toxiques, parce que l'usage, parce que l'alcool, parce que le tabac, parce que notre
vie,
rythme de vie. Mais en réalité, on dit que les hommes perdent leur grave à partir du moment où la testostérone diminue un petit peu. Mais en réalité, elle ne s'aggrave pas particulièrement.
D'accord. Est-ce qu'on dit, souvent qu'une voix, c'est une signature, c'est notre identité également. Est-ce que ma voix, par exemple, est unique? Est-ce que celle de Julia est unique? Est-ce que la vôtre est unique? C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas, retrouver deux voix identiques, c'est pas possible?
Demandez aux imitateurs. Ouais. On peut se tromper dans certains cas, et là, c'est une agilité particulière au niveau du timbre. Mais les cordes vocales n'étant pas le facteur essentiel, puisque ce n'est que le générateur de vibrations, au niveau du timbre, on peut se rapprocher beaucoup. On voit qu'on parle parfois avec la même voix que sa mère, pour les garçons, leur père. Donc oui, on peut se rapprocher beaucoup. Unique, on ne l'a jamais montré. Mmh.
Est-ce que la corpulence, par exemple, a un impact sur la tessiture?
Quand on dit qu'il y a 300 muscles pour avoir la bonne attitude physique, le bon fonctionnement, il est bien certain que si on ne gère pas bien son corps, on peut avoir plus de difficultés. Mais j'allais dire, on a besoin d'une respiration qui n'est pas une hyper-respiration. On a besoin d'utiliser l'air longtemps, mais pas avec des quantités considérables. On a besoin de jouer avec, d'une certaine habileté. Plus que d'avoir un corps de jeune fille toute mince, toute belle.
Alors justement, on va écouter une voix mythique, celle de Jeanne Moreau, tout de suite, un petit extrait.
D'abord, j'entends, dans son tour de chant, j'entends à l'Olympia, nous en parlons longuement, mais je parle de son concert que je trouvais épatant.
Alors cet extrait, c'est un extrait donc de Jeanne Moreau sur notre antenne en 2010. Est-ce que vraiment, parce qu'on se dit, bon, Jeanne Moreau, c'est une voix mythique, mais on se dit souvent c'est une voix de fumeux, c'est vraiment le tabac qui a créé cette voix-là, ou parce que même jeune, elle avait une voix
grave
déjà.
Alors j'étais médecin de Jeanne Moreau, en plus. Par hasard, c'est ça.
Ça tombe bien.
En fait, elle n'a eu de problème de voix dans sa vie qu'une fois, lorsqu'elle était en état un peu dépressif, à la suite d'un divorce. Et à ce moment-là, pour des raisons matérielles, elle a voulu faire du théâtre et son état psychologique ne lui permettait pas vraiment de monter sur scène. Là, elle a eu des problèmes de voix. Sinon, elle s'en est toujours très bien servie. Alors, il est bien certain que le tabac provoque cela, l'alcool, pas de façon directe, puisque l'alcool ne passe pas sur les cordes vocales, mais il crée un pH acide au niveau du pharynx que les cordes vocales ne supportent pas. Mmh. Voilà, donc voilà pourquoi l'alcool... on me dit souvent que je suis anti-champagne. Non, mais le vin blanc est c'est vrai, champagnisé ou non, est peut-être un peu plus agressif à l'origine de ce pH acide. Ah, oui. Mais bon, l'alcool, d'une façon générale, tous les toxiques. Il est bien certain que la cocaïne, de façon durable, les cordes vocales n'en raffolent pas. Donc,
vin blanc particulièrement, ça, buvez de toute façon toujours avec modération.
Vin blanc, oui.
Mais les cordes vocales préfèrent le vin rouge, alors, en quelque sorte.
Elles préfèrent le Bordeaux.
pas le Bourgogne.
Comme les chanteurs, d'ailleurs.
Alors, pourquoi certaines personnes chantent complètement faux? Est-ce que ça a un rapport avec la voix ou les oreilles?
Alors, exceptionnellement, avec les cordes vocales, on a une boucle audiophonatoire. On chante comme on entend. Si on n'entend pas, on a du mal à reproduire une mélodie. Chanter faux, c'est surtout un problème d'oreille et pas un problème de corde vocale, ou exceptionnellement. Mmh. Mais Mélanie, vous avez dit une expression que tout le monde doit enlever de son vocabulaire.
Allez-y, je vous en prie.
C'est chanter comme une casserole.
Ah, pardon.
Parce que, si je dis cela, c'est que les patients arrivent en disant... Non, mais on m'a toujours dit que je chantais comme une casserole.
Mais une casserole,
donc,
ça chante pas.
Arrêtez, les parents, arrêtez de dire que vos enfants chantent comme des casseroles.
Mais vous, est-ce que moi qui je chante faux, mais
pas comme une casserole, apparemment.
Non, je chante faux, mais terriblement.
Parce que vous
faux.
N'avez pas travaillé la chose.
Mais vous pensez qu'on peut s'en
oui,
sortir?
Bien sûr.
Je ne sais pas.
Oui,
aligner des notes justes.
On apprend. On apprend à entendre et à reproduire. Donc c'est exceptionnel. Bon, il y a des gens qui n'y arriveront jamais, mais. C'est difficile, il faut pouvoir identifier un écart très petit, mais ça se travaille.
Donc Julia, il y a de l'espoir encore. Hein.
Vous chantez bien,
absolument.
Mais
ne soyez pas désespérée.
Mais je suis désespérée parce que je trouve ça tellement dommage de ne pas pouvoir pousser un peu de la chansonnette. Même sous ma douche, j'ai honte.
Vous avez honte toute
j'ai
seule
honte de ma voix, ouais.
C'est vrai, c'est fou. Hein.
C'est fou.
En même temps, chanter, ça n'est pas si facile. On le voit chez des gens qui s'amusent beaucoup, par exemple avec le karaoké ou des choses comme ça. Alors, on dit parfois que je suis contre le karaoké, pas du tout. Mais si on doit chanter Starmania ou ce qui est la musique de Notre-Dame, enfin de la comédie musicale, c'est particulièrement difficile. Alors, on est là, on se fait plaisir. Mais bon, les cordes vocales, elles ont besoin qu'il y ait un support respiratoire. Donc, si on ne l'a pas, on s'abîme.
Vous n'aimez pas le champagne, vous n'aimez pas le karaoké, vous
avez mais je suis sinistre, en fait.
Non, je plaisante, évidemment.
Bah, excusez-moi.
Mais les karaokés, on comprend, parce qu'on va crier très fort, donc ça va... C'est-à-dire que les cordes vocales, elles sont quand même fragiles. Donc, quelqu'un qui sera chanteur toute sa vie, est-ce qu'il aura, à la fin de sa vie, une des cordes vocales plus abîmées que quelqu'un d'autre?
Non. Contrairement à ce que l'on dit, les cordes vocales, la voix, ça ne se casse pas. Mmh. Du moins, pas les cordes vocales. Le timbre de voix peut s'altérer, mais pas les cordes vocales. Non, ça n'est pas fragile. La corde vocale en soi n'est pas fragile. Elle est recouverte par une muqueuse qui est sensible au tabac, à la laryngite aiguë, au virus. On vient d'avoir une très belle démonstration avec le président de la République, qui a plutôt une petite voix, et qui, il y a 2 mois à peu près, a pris la parole avec une voix qui remplissait l'espace. Je pense qu'il avait une laryngite, puisque 15 jours après, il l'avait perdue, sa voix. Donc, voilà. Donc, tout ça a une action sur les cordes vocales. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas fragile.
Si je me réveille un matin, parce que justement, j'ai été à un karaoké, le lendemain matin, je n'ai plus de voix. En fait, elles ont quoi, mes cordes vocales? Pourquoi il n'y a plus aucun son? Pourquoi je suis
aphone
comme ça?
Parce qu'il y a une inflammation des cordes, de la muqueuse qui recouvre, ce qui va altérer un peu la vibration et qui va progressivement donner ce voile particulier qui va très vite disparaître avec 24 heures de repos vocal.
Voilà. Très bien. Docteur Fugain, surtout ne bougez pas, on a encore quelques questions pour vous sur les secrets de notre voix. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on vous donne la parole dans Bienfait pour vous. Vous pouvez nous poser vos questions sur la voix ou même sur notre sujet suivant qui sera sur l'arthrose. Pour cela, laissez-nous un message au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On découvre aujourd'hui les secrets de notre voix et on en parle avec vous, docteur Claude Fugain. Je rappelle que vous êtes médecin phoniatre et vous avez travaillé par exemple avec Guillaume Gallienne. Il vous a consulté pourquoi précisément?
J'étais médecin de son père et un jour son père m'a dit, je vais dire quelque chose qui ne se dit plus en 2022, il a une voix de PD, si vous pouvez faire quelque chose. Et en fait, on a travaillé pendant plusieurs années et il est sorti de cette voix, j'allais dire, de genre indéterminé. On a beaucoup joué avec la voix. Il dit souvent qu'on a beaucoup pleuré. C'est parfois bouleversant de travailler sur son image, sur sa personnalité, sur l'image que l'on donne, sur ce que l'on veut faire avec la voix.
Oui, parce qu'en travaillant avec lui sur sa voix, vous avez travaillé sur finalement quelque chose de bien plus vaste et son identité.
Ce n'est pas une mécanique qu'on va faire comme un kinésithérapeute, c'est des cordes vocales. En fait, c'est un travail qui est comportemental et il entre. Je ne vais pas dire c'est la tête qui dirige les choses, mais ça compte beaucoup ce qu'on a dans la tête, en fait, quand on travaille la voix. Donc, à partir de là, on ne fait pas seulement qu'un travail respiratoire. On va travailler comment on agit sur l'autre, comment on a de l'impact, comment on n'a pas seulement de l'intensité, mais l'intention de convaincre. Souvent, les gens disent « on ne m'entend pas » et on a envie de dire « parce que c'est pas assez fort » ou « parce que vous n'avez pas envie d'aller atteindre la cible ». Donc, c'est un travail qui, parfois, est purement psychologique. Puis, parfois, on s'aide de psychothérapeutes et de psychanalystes, bien sûr.
Alors, justement, puisqu'on parle du comédien Guillaume Gallienne, on va écouter un extrait du film « Guillaume et les garçons à table ».
T'as pris ton médicament ?
Quel médicament ?
T'as pris ton médicament, t'en as pas 36.
Ah non, je suis désolé, mais je vois vraiment pas de quel médicament tu veux me parler.
Mais pas ton médicament, t'es... c'est toi ?
Oui, c'est moi. Bonne nuit, papa.
Oui.
Alors justement, dans cet extrait, c'est son papa, donc à Guillaume qui le prend pour sa mère, en fait. C'est sur cette voie-là que vous avez travaillé
Oui. En fait, c'est amusant que vous passiez un extrait où c'est son père qui est présent. Le problème était un peu là, effectivement. Mais on a travaillé sur cette voie de façon à en faire tout ce qu'il voulait. Et quand il a sorti la pièce puis le film, c'est vrai qu'on était plutôt contents des résultats. Il joue très bien féminin, masculin. Mais bon, c'est une personnalité particulière quand même. C'est pas une eau dormante. C'est quelqu'un d'assez particulier.
Bien sûr. Alors, on parle souvent de la couleur de la voix. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire de nos voix à nous, avec Mélanie et moi-même?
D'abord, la couleur, c'est le timbre. Tous les gens aiment les mêmes voix. Des voix graves, certes, mais des voix, si possible, avec une légère roussité, un peu de souffle dedans. La voix de Mélanie est plus grave que la vôtre. Peut-être a-t-elle abusé de ses cordes vocales ou d'autres choses, je ne sais pas.
On ne dira pas rien, c'est le secret de ma voix.
Elle a une vie de patachou. Mais c'est des voix... les voix radiophoniques, on n'a pas à la radio des gens dont la voix est inintéressante. Jamais il y a trop d'aigus. Quand il y a trop d'aigus, ça passe jamais. Les voix métalliques, par exemple, ont beaucoup de mal à se faire entendre. On entend longtemps une voix grave, une voix avec beaucoup de... avec un timbre très métallique, on a un petit peu de mal.
On dit qu'il y a des gens qui ont des voix de canard aussi, un peu comme ça.
Bon, tout est possible. Tout est possible.
Et si je voulais avoir une voix hyper sexy, si je suis dans la séduction, vous me conseillez de, je sais pas, mettre du souffle, qu'est-ce qu'il faut
faire?
Mais
on a une comédienne qui est comme ça. On a une comédienne, que je ne donnerai pas son nom, mais qui vous chercherez toute seule, qui racontait un jour qu'elle était une enfant ingrate, trop grande, trop maigre, trop grande bouche. Je reste persuadée qu'elle a sensualisé sa voix, qu'elle l'a hyper féminisée, de façon purement inconsciente, bien sûr. Mais elle sait fabriquer cette voix que tout le monde dit étonnante. Et tout le monde parle de sa voix. Mais je vais dire entre guillemets, ce n'est pas une voix tout à fait naturelle, mais c'est sa voix.
Elle est très travaillée, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Ouais. Et je pense qu'elle l'a féminisée, elle l'a hyper féminisée. Ça donne cette couleur particulière à la voix, avec un peu de souffle à l'intérieur. J'appelle ça un peu des voix de chambre à coucher, quoi. Donc c'est vraiment une voix un peu sur le souffle, comme ça.
Mais Marilyn Monroe, pareil, quand elle chantait.
Oui, mais quand elle voulait, parce que de temps en temps, elle gambadait un peu dans les aigus.
Elle jouait beaucoup de sa voix. On peut jouer avec la voix. Mais je parlais tout à l'heure de Marc-Antoine Lebré, humoriste donc chez Philippe Vandel, juste avant nous. Il est capable d'imiter à la perfection certaines personnes.
Ça, enfin, c'est le temps. Est-ce que c'est l'agilité.
Mais est-ce que si je travaille, je peux être capable
de faire ça?
Ah oui.
Mais bon, il y a aussi un geste. Il y a beaucoup de choses qui s'associent. Mais ça, c'est au niveau du timbre. On change pas de corde vocale. On passe de Céline Dion à Marchais. On change pas de corde vocale. On change de timbre. On change les formes des caisses de résonance.
Eh bien, vous avez d'autres questions, Mélanie, sur la voix ?
Oui, on a une question de Barbara sur Instagram qui demande, les garçons muent, est-ce que les filles aussi, et qu'est-ce qui se passe finalement quand on mue justement à l'adolescence ?
À l'adolescence, chez les garçons comme chez les filles, chez l'un, la libération de testostérone, chez l'autre, les œstrogènes, font grossir le larynx, qui va atteindre sa taille définitive entre l'âge de 13 et 15 ans. C'est très spectaculaire chez le garçon, où les cordes vocales vont quasi doubler de longueur, et beaucoup moins chez les filles, où au maximum, ça n'augmente que d'un tiers. Donc les cordes sont plus petites, la voix sera une voix féminine, les cordes sont plus grandes, c'est une voix de garçon.
Alors, on a une autre question, je n'ai pas le prénom, mais bon, je vous la lis quand même. Est-ce qu'une opération des nodules sur les cordes vocales peut altérer la voix ?
Non. Les nodules sont des pathologies extracordales. Donc, à partir du moment où on n'ampute pas la corde vocale, on fait de la chirurgie qui est adaptée à la voix.
Parce que les nodules la rendent plus rauque, la voix, souvent, non ?
Elle gêne le contact et donc elle entraîne une dysphonie qui peut être extrêmement importante, qui atteint beaucoup de jeunes femmes, donc qui parlent, qui chantent, qui s'amusent, qui font un peu la fête. Et quand ils sont trop importants, la rééducation ne suffira pas et il faudra enlever les nodules dont on attend en général 100% de récupération.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, docteur Fugain, pour cet éclairage. Vraiment, c'était très intéressant sur les secrets du fonctionnement de notre voix. On a appris beaucoup de choses grâce à vous sur cet outil du quotidien. Bonne continuation.
Merci beaucoup,
docteur, pour cet entretien. On va à présent changer totalement de sujet. On va vous proposer un focus sur l'arthrose, une pathologie extrêmement fréquente, des millions de Français concernés et des Français dont l'état de santé ne s'est pas vraiment amélioré à cause de la situation sanitaire. C'est notre dossier santé du jour.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est le moment d'accueillir notre invité santé. Aujourd'hui, c'est vous, Françoise Alliot-Launois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-présidente de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. L'arthrose, c'est notre sujet ce matin. Alors, cette maladie chronique, je crois que c'est l'une des plus fréquentes en France. Combien de patients sont concernés ?
Alors, c'est une question très importante parce que ça représente, en fait, l'arthrose représente 17% de la population en France. Ça veut dire, en clair, qu'il y a entre 10 à 12 millions d'arthrosiques, hommes et femmes, sur le territoire français.
C'est incroyable, hein. Des chiffres très impressionnants, effectivement.
Oui, c'est considérable, d'autant plus qu'on va le voir ensemble, on va en parler ensemble. L'arthrose a des conséquences très importantes.
Alors, on a en tête que l'arthrose, c'est une maladie de personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Quel âge, si on a une idée en tout cas, quel âge en moyenne ont les patients qui souffrent d'arthrose ?
Alors, on va tout de suite déboulonner ça. L'arthrose, ça n'est pas une maladie, on va dire, de vieux, ce qu'on entend ou ce qu'on a pu lire parfois. C'est une maladie qui débute souvent bien avant la quarantaine. Un patient sur trois, en fait, va avoir les premiers signes, les premiers symptômes de l'arthrose avant 40 ans. Donc, on va voir que, en fait, une grande partie de l'arthrose se fabrique, on va dire, beaucoup plus précocement, et que ensuite, eh bien, la personne va vivre pendant 30, 40, 50 ans avec l'arthrose.
Et les douleurs qui vont avec.
Voilà, les symptômes principaux, je pense qu'on en rediscutera, mais les plaintes finalement des personnes atteintes d'arthrose, des malades, ce sont des malades, eh bien c'est en effet la douleur, et c'est souvent le premier signe, c'est une douleur du genou, ou une douleur des doigts, ou du poignet, ou de l'épaule, et qui va finalement faire en sorte que la personne qui souffre d'une articulation va aller consulter chez son médecin généraliste. Mmh. C'est la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. Je dois dire tout de suite aussi que c'est la deuxième cause de handicap aussi. Donc vous voyez qu'il y a des conséquences importantes et la venue de la personne chez le médecin, ça signe le début de la maladie.
Mmh. Et ça touche plus les femmes ou les hommes ?
Alors il y a une répartition, harmonieuse entre les hommes et les femmes. On dit qu'il y a peut-être une petite prédominance féminine, mais les choses ne sont pas si claires que ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les femmes sont plus souvent touchées par l'arthrose des doigts et par l'arthrose du genou. Donc ça, par contre, c'est vraiment un tableau typique. Elles sont plus touchées dans ce cas-là que les hommes.
Alors Françoise Alliot-Lenoir, on va peut-être faire un petit rappel technique quand même. C'est quoi l'arthrose précisément? Il se passe quoi dans les os, les articulations? Ça se passe où justement cette maladie?
Ça se passe au niveau de toutes les articulations mobiles. Toutes les articulations mobiles, c'est celles que l'on peut bouger hein, dans la vie, c'est-à-dire le coude, le poignet, la hanche, le genou. Il y a aussi les articulations qu'on appelle semi-mobiles, c'est-à-dire les articulations vertébrales. Je n'oublie pas non plus, il faut le dire, parce que c'est une arthrose qui est très douloureuse, c'est l'articulation temporo-mandibulaire qui se trouve ici.
Au-dessus des mâchoires et au-dessus, au niveau des tempes, quoi, à peu près.
Oui,
hein, c'est
à
ça,
peu près devant les oreilles, au niveau des tempes.
Ah
tout
oui,
à fait,
dingue, je savais pas.
Et ça, c'est une arthrose, là aussi, extrêmement invalidante. Finalement, c'est les os du crâne, il n'y a pas d'arthrose, parce que ce sont des articulations immobiles. Voilà.
D'accord. Alors, vous avez eu votre association, hein, la Fondation Arthrose, vous venez d'ailleurs de publier une enquête réalisée en France et en Belgique. Sur quoi vous avez interrogé les gens en ligne, précisément?
Alors, cette enquête, en effet, elle a eu l'objectif de les interroger sur tous les aspects de leur vie au quotidien, de leur vie avec la maladie, évidemment, avec ses conséquences, et puis aussi, quels traitements ils attendaient, quels traitements ils avaient ou pas, et quels étaient leurs besoins, d'exprimer leurs besoins.
Ce qui ressort, c'est que le bilan pendant les deux années de Covid, parce que cette enquête a eu lieu là depuis deux ans, il n'est pas terrible. Hein.
Oui. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il s'est trouvé qu'on a lancé l'enquête au mois de septembre 2019, donc quelques mois avant le Covid. Et puis, le Covid est arrivé et la FLAR et la Fondation Arthrose se sont posé la question de savoir si on arrêtait l'enquête. Finalement, on a décidé de la poursuivre. Moi, je trouve que c'était très bien parce que, en définitive, deux points sont importants. La première chose, c'est que cette enquête-là, elle a été comparée à une enquête qui a été faite il y a 8 ans par la FLAR, seule à ce moment-là, donc uniquement pour les patients français. Mais finalement, les patients français et les patients belges...
C'est les mêmes, hein.
C'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes. On le savait déjà, hein, ouais. Même si on peut se moquer les uns des autres, mais ce sont les mêmes. En fait, on s'aperçoit d'une première chose, c'est que rien n'a changé, malheureusement, hélas, dans l'arthrose, depuis 8 ans. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de progrès dans la prise en charge de l'arthrose, il n'y a pas eu de progrès dans les conséquences extrêmement lourdes et invalidantes de l'arthrose, il n'y a pas eu de progrès dans la prise en charge de la douleur, et donc évidemment, ça c'est un constat très important, et c'est pour ça que la FLAR et la Fondation Arthrose, nous portons la voix de ces malades. Et puis le deuxième constat à propos du Covid, c'est la question de Julia, à propos du Covid, eh bien c'est qu'on s'en doutait quand même un peu, c'est que la période de confinement en particulier, ça a été évidemment une période très difficile pour les malades atteints d'arthrose, parce qu'ils ont été immobilisés, donc pas d'activité physique, très sédentaire. Bah, ils ont pris un petit peu de poids, mais comme tout le monde. Je crois que c'est un peu la règle du confinement. Et que de fait, les troubles du sommeil, la douleur, le moral aussi, ont été impactés par le Covid.
Eh bien Françoise Alliot-Lenoir, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous. On va continuer à parler de l'arthrose et de sa prise en charge en 2022, qui est loin, on l'a compris, d'être vraiment satisfaisante. On va faire le point sur les traitements à la fois médicamenteux et non médicamenteux. Et puis on dira aussi un mot de l'état de la recherche, parce qu'il y a des pistes à l'étude qui pourraient peut-être un jour changer la donne pour les patients. On va tout vous expliquer sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vous dit tout sur l'arthrose aujourd'hui. Alors pour y voir plus clair, nous avons fait appel ce matin à Françoise Alliot-Lenoir. Vous êtes vice-présidente de la FLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Et vous avez réalisé une enquête donc durant les deux ans de Covid auprès des patients ayant de l'arthrose. Et on a dit qu'ils avaient particulièrement souffert, que leur état s'était dégradé. Pendant les confinements surtout, qu'est-ce qui montre justement que leur état s'est dégradé? C'est la prise de poids uniquement?
Non, bien évidemment, c'est l'augmentation de la douleur, qui est déjà souvent très élevée dans les périodes normales. Et puis, c'est le mental qui n'a pas suivi. Il faut le dire, l'arthrose, c'est une maladie chronique. Donc, ça indique qu'il va falloir soutenir tout au long, il va falloir accompagner les malades qui sont atteints d'arthrose, parce qu'ils vont être amenés à avoir des difficultés, des handicaps dans la vie courante.
Oui, parce qu'il y a des douleurs, mais il y a aussi une douleur psychique qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas suffisamment prise en compte en France. Donc ça montre bien, si ces douleurs, elles ont tellement augmenté pendant les confinements de ces patients, que finalement, le sport, l'activité physique, en tout cas, quand on a de l'arthrose, c'est quasiment un traitement, un médicament, on peut dire ça.
Alors, l'activité physique et le sport sont évidemment des éléments essentiels pour pouvoir freiner l'évolution de l'arthrose et faire en sorte que l'articulation retrouve à la fois de la souplesse, que la synoviale puisse de nouveau produire du liquide synovial, c'est le lubrifiant finalement du cartilage, et en plus que le sujet se remuscle. Le problème de l'arthrose, c'est que bien souvent c'est accompagné par une sédentarité, on marche pas assez à notre époque. Il y a une étude de l'OMS qui a montré que beaucoup de sujets font que 300 mètres par jour. Donc, imaginez les dégâts, puisque les articulations, elles ne sont pas du tout mises en fonction. Et c'est très grave, parce que le cartilage, normalement, il a des mécanorécepteurs. Et ces mécanorécepteurs, c'est eux qui subissent les pressions lorsque l'on marche, par exemple. Ça, c'est la plus belle activité de l'homme. Et malheureusement, quand on est sédentaire, eh bien, le cartilage va mourir, en quelque sorte. Il ne va plus pouvoir assurer sa fonction.
Mais c'est quoi les causes de l'arthrose, d'ailleurs? Ce qui fait qu'un tel en aura et pas l'autre?
Alors, il y a plusieurs causes. Alors, j'ai entendu le mot obésité. C'est vrai que le surpoids va abîmer davantage le cartilage. Le sexe, on a dit que peut-être les femmes, mais les études sont controversées là-dessus, ne sont pas forcément plus atteintes que l'homme. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'à la ménopause, il y a quand même un facteur de risque. Il y a les micro-traumatismes, bien sûr.
Quand on a eu un accident de ski, dans des sports un peu extrêmes, ou des choses comme ça,
abîme,
c'est un facteur de risque.
Les ligaments du genou, par exemple. Ou les sportifs de haut niveau, ou les sujets amateurs qui font du jogging, mais de façon un petit peu inconsidérée, mal chaussée, avec des chocs répétés. Il y a aussi les professions marteau-piqueur, par exemple. Ça peut, pas toujours, ça peut être un facteur de risque.
Très bien. Donc il y en a plusieurs, et puis encore des causes peut-être même inconnues.
Absolument.
On
et
cherche
puis les
encore
déformations.
À en savoir plus.
Vous connaissez très bien les genoux à la Lucky Luke, ou au contraire, les personnes qui ont les genoux en forme de O. X ou O, ça c'est très dangereux.
Alors, on a dit que les douleurs avaient augmenté durant les confinements de ces patients. Il y a quand même des médicaments, cela dit, qui existent aujourd'hui pour soulager les douleurs, mais pas pour guérir. On est d'accord, l'arthrose, on n'a rien pour la guérir aujourd'hui.
Alors, les médicaments, vous avez raison, c'est important, mais très souvent, en fait, on s'est aperçu, et les patients le disent, qu'ils ne savent pas très bien manier leurs médicaments. 50% des malades d'arthrose ne respectent pas les indications données par le médecin généraliste en général.
Pour les antalgiques, les anti-inflammatoires.
Ils les prennent seulement quand ils ont mal, alors qu'il faut les prendre avec un calendrier. Ils les prennent pas forcément à la bonne heure, ou ils vont les mélanger avec de la banane ou des substances qui vont faire que les effets
perdent d'efficacité.
Voilà. Donc il y a quand même
il y a des
progrès à faire. Nous, on est là pour évidemment aider à cela. C'est très important. Mais il y a des traitements non médicamenteux, tout à fait.
Est-ce qu'il y a une part de génétique et d'hérédité dans les causes? Est-ce que si ma mère a de l'arthrose, je vais en avoir, moi?
Alors, vous avez 50% de chance, Julia, d'avoir un risque supérieur d'avoir de l'arthrose. Pour autant, les 50 autres pourcents non génétique, vous pouvez vous en protéger. Oui. C'est vrai que quand on a une maman ou un papa qui a de l'arthrose, voilà, une maman qui a de l'arthrose des doigts, précisément, ça c'est justement un vrai facteur de risque, ou de genoux, il y aura une plus grande chance, c'est particulièrement sur ces points-là, d'avoir de l'arthrose. Donc, ça fait un peu peur, bien sûr, mais il y a des choses à faire là aussi.
Vous pensez que pendant les 2 ans de crise sanitaire, on a eu finalement un retard au diagnostic, peut-être pour certains patients? Et d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de se faire dire un jour chez le médecin, vous avez de l'arthrose, sachant qu'il n'y a pas de traitement pour guérir complètement? Quel est l'avantage d'être vraiment pris en charge, même s'il n'y a pas de curatif à 100% contre cette maladie?
Quand on a les premiers signes d'arthrose, la douleur, on en a parlé, la gêne, le blocage articulaire, les craquements aussi des articulations, et qu'on va consulter. C'est vrai que parfois on entend dire il n'y a rien à faire, c'est faux. Il y a beaucoup de choses à faire, et en particulier d'abord je dirais être soigné, et se soigner. Être soigné, ça veut dire que parfois, et ça c'est très important pour éviter l'aggravation de l'arthrose, il y a des poussées inflammatoires. L'articulation des doigts, c'est rouge, c'est chaud, ça fait mal, c'est gonflé, et là, il faut absolument gérer les poussées inflammatoires. Pareil pour le genou. Ça se voit, une articulation qui est chaude, qui est un peu rouge.
Mais comment on gère ça?
Alors, il faut immobiliser. C'est pas le moment d'aller faire du sport. il faut s'immobiliser un peu, se mettre au repos quelques jours, et là, un traitement médicamenteux avec des anti-inflammatoires et la mise au repos de l'articulation...
Pour faire passer la poussée. Ouais.
Ah voilà, il faut passer la poussée. Pourquoi ? Parce que l'inflammation, c'est le rôle évidemment des cytokines pro-inflammatoires, et ça va détruire non seulement le cartilage, mais tous les tissus environnants.
Et vous parliez, je crois aussi, d'une certaine forme d'alimentation pour avoir moins mal, pour soulager. Qu'est-ce qu'il faut manger, alors ?
Alors, l'alimentation, c'est vrai qu'on entend dire que contre la douleur, ça peut interagir, c'est pas faux. C'est aussi parce qu'il faut surveiller son poids, il faut stabiliser son poids. Ou même, quand on est en surpoids, on préfère dire le mot surpoids, eh ben, il faut arrêter la mécanique du surpoids sur les articulations.
Perdre quelques kilos, ça peut soulager les patients, vraiment.
Perdre 5 kilos, ça peut soulager à la moitié des symptômes, par exemple. Donc ça, c'est très important. Le régime, ça c'est très important. Il faut absolument réfléchir à comment faire du bien à son corps avec les aliments, je dirais, amis. Les aliments amis, on va le dire très, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même le régime méditerranéen.
Des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, des poissons gras, absolument. Des oléagineux.
Et surtout, aussi, il faut penser aussi à bien assaisonner avec éventuellement des épices dont on dit qu'elles ont un rôle anti-inflammatoire.
Curcuma.
Alors le curcuma, le poivre, parce qu'il y a de la capsaïcine dedans, le gingembre, l'arpagophytum.
Et manger de la viande quand même, hein, je crois que c'est important.
Il ne faut pas supprimer la viande, il faut en manger raisonnablement, pas tout le temps, pas trop de viande, parce que ça peut avoir des conséquences au niveau inflammatoire. Mais en tout cas, les épices, il y a une étude qui vient de paraître, les épices que je viens de citer, il faut les combiner. Une seule épice seule n'agit pas, mais l'ensemble de ces épices, oui. Pour revenir au traitement médicamenteux, mais non remboursé, il y a quand même les anti-arthrosiques d'action lente. Ça, les malades le recherchent, bien sûr. C'est déremboursé, mais il y a des plantes, il y a les cartilages, la chondroïtine, il y a les insaponifiales. Tout ça, c'est important, parce qu'on sait que ça diminue la gêne, ça diminue la douleur. Et ça, le malade, il s'en rend compte.
Eh bien, merci déjà pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est très clair. On a bien saisi qu'il y a encore une bonne marge de progression pour que la prise en charge de ces patients soit optimale. Ça,
vous viendrez nous reparler de la recherche une prochaine fois. Merci beaucoup. Maintenant, on va lancer notre partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique beauté du docteur Aurène Marco. Et puis, comme tous les mardis, on écoutera aussi les conseils sportifs du coach Jean-Marc Delorme. Ce midi, il nous propose de monter sur la balance. Enfin, pas moi, c'est Julia qui va s'y coller.
Non, moi, j'irai pas.
Et puis, on terminera aussi avec le journaliste Edouard Dutour. Ce matin, il a décidé de nous faire découvrir les tendances inspirées de la famille royale d'Angleterre. Donc, que des bons plans, des bienfaits. Et tout ça, c'est sur Europe 1, bien sûr.
Bienfait pour vous sur Europe 1.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être Feel Good. Vous le savez, dans notre émission avec Julia Vignali, notre seul but, c'est de prendre soin de vous jusqu'à midi et demi. À présent, on va lancer comme tous les jours à midi et une minute notre séquence tendance, notre tour de table des tendances. Et donc, on va démarrer avec vous, docteur Aurène Marco. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez de faire un point sur un nouveau Botox, c'est
exactement,
bien ça ?
Exactement, le méso-Botox.
Donc là, je n'en ai jamais entendu parler. Non, non. C'est ça que vous avez ? Non, c'est pour ça que vous êtes aussi beau, vous ? Non, ça n'a aucun rapport ?
Non, non, c'est un filtre naturel.
Comme sur Instagram. Ensuite, dans l'ordre, ce sera à notre coach sportif de prendre le micro. Bonjour Jean-Marc Delorme.
Bonjour.
Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais balancer parce qu'on va parler des pèse-personnes.
Ah, mais, je vous le dis déjà, je ne montrerai sur aucun pèse-personne, je préfère vous le dire.
Mais ils sont géniaux ceux-là, ils sont révolutionnaires.
Ouais,
ils ne
changent pas le poids.
Bah, on peut le régler pour vous.
Moi,
Julien.
La vérité. Moi, j'aime bien les vieux sur lesquels on peut tricher en penchant un peu.
C'est vous qui montrez dessus, Edouard Dutour. Alors, bonjour Edouard Dutour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, avant de monter sur la balance, qu'est-ce que vous avez au menu, vous, aujourd'hui ?
Ben, nous, on va parler des Windsor, on va parler de la couronne d'Angleterre et je vais vous dire un peu tout ce qu'il faut savoir pour être à la page côté monarchie anglaise.
On va s'inspirer de la monarchie anglaise.
Exactement.
C'est parfait. C'est ma passion. Merci beaucoup, Edouard. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on va se faire beau et belle dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Docteur Aurène Marco, alors vous êtes chirurgien esthétique, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais désormais, les chirurgiens utilisent de plus en plus les injections pour nous faire rajeunir quelques années, ou même pour prévenir les signes de l'âge sur notre peau. Et donc, il y a des nouveaux produits qui débarquent sur le marché tout le temps, et notamment celui dont vous allez nous parler. Alors, vous avez dit quoi, le
méso-botox, parce que moi, j'ai noté encore appelé le nano-botox.
Noté le nano-botox, c'est la même
chose. Alors, il ne s'agit pas d'un nouveau produit a priori, il s'agit simplement d'une dilution différente du botox, qui permet de traiter non plus les rides, mais d'améliorer la qualité de la peau. Et donc, quand je vous dis que c'est une vraie tendance, c'est que c'est vraiment nouveau, que les études sont sorties vraiment, c'est très précoce encore comme étude, mais elles sont très prometteuses. Donc, vous connaissez tous autour de cette table, vous avez déjà entendu parler du Botox.
On va faire un petit récap quand même, Aurène, si vous voulez bien, rapidement, sur le Botox, même le classique,
Donc, le Botox ou toxine botulique, c'est un traitement, en fait, qui existe depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, puisqu'on traitait, en fait, les spasmes musculaires pour les maladies neurologiques. Pour traiter donc ces spasmes, on utilisait cette toxine et on s'est rendu compte avec le temps que les rides disparaissaient. Donc, vers la fin des années 80-90, on a commencé à avoir une indication en esthétique pour diminuer les rides au niveau de la patte doigt et au niveau du front. Et c'est devenu maintenant un espèce de traitement vraiment basique en esthétique.
Et la mésothérapie, c'est quoi la mésothérapie ?
Alors la mésothérapie, c'est une façon d'injecter. Donc jusqu'à présent, on injectait en mésothérapie, c'est-à-dire d'injecter plein de petits points sous la peau, soit des vitamines, soit des acides hyaluroniques très très faibles, ce qu'on appelait les skin boosters, et ça permettait d'hydrater la peau ou d'améliorer un petit peu l'atrophité de la peau pour les peaux sèches.
D'accord.
Et on s'est rendu compte, en fait, en traitant tous ces patients, puisque maintenant, le nombre de gens qui font du Botox est monumental, énorme. Et donc, du coup, on a vraiment des études grandes, que la texture de la peau, en fonction de la concentration du Botox, était soit quand on avait des botox trop lourds, un peu brillants, donc vous avez déjà vu ces femmes trop botoxées,
oui,
on avait
le front
qui brille un peu, exactement. Ouais. Et à contrario, quand on faisait des botox très naturels, on avait une amélioration de la texture de la peau, notamment sur le plan d'une peau mixte, par exemple, se transformait en peau un peu plus sèche, et ça permettait de traiter effectivement toutes ces zones, la zone en T au milieu du front, le menton.
Qui est la zone la plus grasse en général, c'est ça. Et donc, le Botox, il a quel effet sur cette zone-là, alors, justement ?
Alors, le Botox sur ces zones-là, on s'est rendu compte qu'à des faibles doses, en fait, au niveau des glandes sébacées, ça permettait de diminuer, en fait, la production de sébum, parce qu'il y a un muscle, en fait, arrecteur au niveau du poil, et du coup, ces muscles étaient diminués, et donc la production de sébum était aussi diminuée. Donc, on avait une amélioration. On peut également, vous le savez aussi, il y avait d'autres indications qui ont été traitées, comme notamment au niveau des aisselles pour diminuer la transpiration. Ah, on endort en fait les glandes sébacées.
Je crois.
Ça marche très 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 bien, et aussi au niveau de la paume de la main.
Ah. On fait des injections de Botox dans les mains ?
Oui, pour les gens qui ont les mains très moites, qui sont stressées, ça permet vraiment de diminuer.
J'avais entendu parler d'électricité aussi au niveau des mains, qu'on pouvait faire un truc d'électrophorèse.
C'est la nouvelle technique. C'est une technique un peu plus définitive par rapport au Botox.
D'accord. Mais le Botox, c'est efficace en tout cas.
Le Botox, c'est
très efficace. Vous transpirez des mains, Edouard, peut-être ?
Écoutez, non, ça va, mais je me posais la question, est-ce que tout ça fonctionne pour les garçons comme pour les filles?
Mais bien sûr.
Bien sûr, parce que la zone T, chez les garçons, c'est encore plus gras que chez les filles, je crois.
C'est vrai.
Ah ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous nous recommandez, vous, docteur? Parce que là, super, on a,
donc, globalement,
y a de la méso, il y a du Botox et le nano-Botox.
Alors le nano-Botox, je vais bien vous résumer, c'est simplement du Botox qu'on aura dilué 4 fois plus que d'habitude.
Dans de l'eau?
Dans du sérum physiologique. Donc d'habitude, on prend un flacon de Botox pour 50 unités, on met 1 ml de sérum fille, et là, on va en mettre 4.
Ouais.
Et donc, en injectant en mésothérapie, en technique mésothérapie, c'est-à-dire qu'en injectant des points dans le derme à espacer de 1 cm chacun, ça permet, sans figer les muscles du tout, donc il n'y a aucune perte d'expression du visage, rien du tout, ça permet en fait de traiter vraiment les pores dilatés, les peaux à tendance acnéique,
c'est
de
génial.
Réguler la production de sébum et donc d'avoir une peau plus éclatante. Donc finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que on avait les skin boosters, on en a déjà parlé.
Mais c'est quoi les skin boosters? C'est comme de la mésothérapie, mais avec de l'acide hyaluronique.
La mésothérapie, ça reste la technique d'injection.
Voilà.
Le produit pour les peaux sèches, c'est le skin booster, donc des acides hyaluroniques très très faiblement réticulés qui permettent d'hydrater la peau puisqu'ils sont hydrophiles.
Et qui ne donnent pas de volume.
Et qui donnent zéro volume. Et là, maintenant, on a l'autre penchant pour les peaux plus acnéiques, les pores dilatés, parce que les pores dilatés, c'est vraiment une demande qui est non-stop.
Edouard vous regarde avec attention.
Il a l'air très intéressé par les pores dilatés.
Je crois que vous avez la peau grasse. Hein,
j'ai pas du tout le pore dilaté, je m'inscris en faux. Moi j'aime les pores en saucisson, mais pas dilaté.
Balance ton porc.
Donc les pores dilatés, c'est une vraie demande et il n'y a aucune crème qui marche, il n'y a pas de soins vraiment qui sont très efficaces.
C'est une
efficaces
demande de garçons et de filles, les deux, les pores dilatés.
C'est une demande vraiment mixte, de toute façon. Ouais. J'ai envie de vous dire, maintenant, on ne fait plus de genre, là, tout le monde vient et il n'y a plus du tout
de différence. Mais je vais dire un truc horrible, mais un très jeune adulte qui aurait des problèmes de peau liés à l'adolescence, est-ce qu'elle pourrait être traité?
On n'en est encore pas là, c'est une bonne question. On n'en est encore pas là, en tout cas. pour l'instant, on va traiter avec des problèmes classiques de dermatologie, avec des crèmes à base de rétinoïdes, de vitamine C ou
de zinc,
Des antibiotiques aussi, ou bien alors basculer carrément sur le traitement à base de Roaccutane qu'on connaît. Mais peut-être que dans le futur, là, ce sont les prémices. En tout cas, peut-être que dans le futur, on pourra traiter les peaux à tendance acnéique avec ce nanobotox.
Ça, vous le faites déjà, vous, en cabinet, ce nanobotox? Vous dites que c'est très nouveau, les études sont nouvelles, mais est-ce que vous avez déjà des patients?
C'est très nouveau, oui, j'ai déjà des patients. Après, j'ai testé plutôt les amis.
Vous voulez dire vos amis à peau grasse?
Les amis à peau grasse.
Ils vous regardent bizarrement.
On vous salue, hein, les amis à peau grasse d'Auray.
Moi, mon indication à moi, ça serait plutôt le skin booster. J'ai une peau légèrement sèche.
Moi, j'ai peut-être essayé le diluer, alors, hein, comme Edouard.
Non, vraiment, je pense que c'est une très belle indication. Et si, en tout cas, ça montre ses preuves dans le futur, on aura du coup les deux penchants pour traiter la peau et améliorer, en tout cas, la texture de la peau.
Et si j'ai bien compris, c'est des injections beaucoup moins profondes. Alors, peut-être, la méso, c'est très superficielle.
On pique vraiment.
Et ça fait pas mal en plus du coup quand on pique.
C'est comme des petites piqûres de moustique.
Ça coûte cher ou
Edouard
entier.
Edouard, ça coûte
pour
cher.
Pour la prise de rendez-vous, ça sera dans un instant, Edouard, vous inquiétez pas.
Pas vos soins, mais ce ne serait pas permis.
Bon, merci beaucoup, docteur Auray Marco, pour cet éclairage beauté qui nous a captivés, surtout Edouard Dutour. Comme à chaque fois avec vous, que de bons conseils et un regard même toujours un peu critique. C'est ça que j'aime bien avec vous. Pas de langue de bois en beauté, merci. Vous restez avec nous car dans un instant, les conseils sportifs de notre coach Jean-Marc Delorme arrive. Aujourd'hui, il nous dit que les balances, l'épaisse personne dernière génération, sont d'une grande aide pour mieux maîtriser notre poids. On va monter sur la balance dans quelques minutes. Aïe, 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 aïe. Et puis, il y aura aussi la chronique d'Edouard Dutour. On va aller faire un tour en Angleterre avec Edouard Dutour. On va faire un tour, c'est pas mal ça.
Ouais,
voilà, on va voir la famille royale d'Angleterre. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, on va passer à un moment redouté par beaucoup de gens. Il est l'heure de monter sur la balance, Mélanie.
Jamais de la vie,
Mélanie, avec notre coach Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Elle est jolie celle-ci, mais j'ai pas envie de monter dessus quand même.
Pourquoi vous nous amenez des balances? C'est pas sympa.
Écoutez, en même temps, il faut être au courant de son poids.
Mais non,
et
on est ravis. On montera pas dessus, mais expliquez-nous, hein. Voilà. On va tout savoir.
Alors, comme les portables qui ont évolué en smartphone, eh ben c'est un peu pareil avec les pèses personnes qui ont évolué en impédance-mètre.
Alors déjà, c'est un mot. Alors moi, je ne comprends pas ce mot. C'est quoi?
Alors, l'impédance-mètre, c'est un appareil qui va vous permettre non seulement d'avoir votre poids, bien sûr, mais aussi d'interpréter plusieurs informations.
Vos goûts musicaux.
C'est genre quoi, mon niveau de graisse?
Alors, votre taux de graisse, la masse hydrique, la masse osseuse,
bilan
etc.
Bilan auditif en même temps.
C'est sympa, on aurait pu faire un test en double aveugle. Vous montez sur la balance et moi je vous dis combien vous
avez. Oh non, mais quelle horreur. Bon Jean-Marc, comment ça fonctionne? Alors, cette impédance-mètre, c'est ça?
C'est impédance-mètre, tout à fait. Alors, c'est grâce à des électrodes, vous voyez sur la, cette impédance-mètre, il y a des petits capteurs.
On peut dire
là,
balance, parce que c'est tellement moche balance, ce mot-là. Ouais. Balance nouvelle génération,
donc on va dire. On se met pieds nus, alors il en existe aussi avec des poignées.
Hein, je peux vous dire que moi je monte toujours pieds nus, même le chouchou pour les cheveux, j'enlève en général.
Après avoir été aux toilettes.
Jamais, on peut perdre 2 grammes.
Et donc vous avez des capteurs ici, d'accord, qui va permettre de faire passer un courant à très faible intensité dans le corps et ça va nous donner des informations parce que il va passer plus facilement dans les plus conducteurs dans les parties qui sont remplies d'eau et puis moins dans les compartiments qui sont plus épais comme la graisse.
S'il y a trop de graisse, ça passe moins.
D'accord. Donc, du coup, comme ça, on arrive à avoir les répartitions.
Ah, c'est pas mal. Mais c'est quoi l'importance de connaître toutes ces données par rapport à un pèse-personne classique, celui dont parlait Edouard, le pèse-personne de
le
nos grand-mères?
Oui.
C'est quoi l'avantage?
Parce que avant,
je mettais l'aiguille avant, au moins 2 kilos avant le zéro. C'est ça.
Vous pesiez et on n'avait qu'une information sur le poids. Fin de l'histoire. D'accord. Maintenant, grâce à l'impédance-métrie, on va pouvoir avoir des informations sur la masse graisseuse, sur la masse osseuse, sur le taux d'hydratation, etc. Et donc, c'est très important parce que, par exemple, lorsqu'on va commencer du sport, si on prend du muscle,
Ben on va peser plus lourd.
On va peser plus lourd. Si on se pèse sur une simple balance, on va se dire oulala,
j'ai grossi.
J'ai grossi, que se passe-t-il, etc., etc.
Alors que pas du tout, on peut avoir pris du muscle et avoir perdu de la graisse.
Exactement.
D'accord. Et ça, c'est une bonne chose. Donc
ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Hein. Donc ça, ça va nous importer toutes ces sortes d'informations, donc, notamment l'IMC. Alors l'IMC, c'est quoi? C'est l'indice de masse corporelle, hein, comme le BMI, c'est l'équivalent du BMI en anglais.
Mais ça donne l'IMC, ces balances-là?
Ça donne l'IMC.
Ah d'accord, ça vous dit, vous êtes à... Alors en gros, je résume rapidement, parce qu'on ne va pas reparler de l'IMC trop en détail, mais en dessous de 16, on est maigre. Entre 16 et 18, on n'est pas très gros, on va dire. Ouais. Normal, c'est entre 18, 5 et 24.
Absolument.
Et puis après, au-dessus, il y a le surpoids, l'obésité, etc.
Absolument,
et voilà. Donc avec cette balance, je monte dessus et ça me donne mon IMC.
Exactement,
direct.
Exactement, parce que cette balance est connectée. Vous allez avoir une application que vous téléchargez très facilement.
Donc je rentre
dedans,
ma taille.
Vous rentrez votre taille, votre poids, au départ, en tout cas.
L'âge, c'est important.
L'âge, etc., etc. Donc il va vous calculer automatiquement l'IMC.
Et alors, pour savoir si on est bien dans les clous, l'indice de masse graisseuse idéal, est-ce que, je sais pas, chez les femmes, il y a une moyenne et chez les hommes aussi? On a le droit d'être plus grasse, hein, je crois que vous, il me semble, les femmes.
Alors, tout à fait. Alors, la moyenne, par exemple, chez les hommes, alors là, ça a été mesuré autour des 25-30 ans, hein, c'est notre âge.
C'est au rêve, hein.
Donc c'est, pour les hommes, c'est entre 12 et 15%.
À peu près.
Beaucoup, alors, jusqu'à 20, selon les odeurs, ça dépend.
Attends, 12 et 15%, c'est pour qu'on voit un peu les tablettes de chocolat et trucs comme ça.
C'est pour être bien.
Vous êtes à combien, vous, Jean-Marc?
Alors, moi, en période de compétition, quand je suis affûté, je vais être autour des 5% de ma
graisse. Oh ouais.
Il faut savoir que les cyclistes du Tour de France sont à 4,5.
Et Aurène, il a combien, par exemple, on peut imaginer? Parce qu'il fait du sport, quand même.
Je le sais.
Combien, alors?
Je suis à 17.
C'est pas mal, c'est super, Aurène, bravo. Voilà. Et les femmes?
Et les femmes, on va être entre 22 et 25.
Edouard, il doit pas avoir beaucoup de gras, donc vous êtes tout mince.
Jusqu'à 30, ça dépend. Hein. Bon, c'est un peu les interprétations, comment on a envie, comment on se sent normal, hein, en fait.
Et surtout ce qui est masse osseuse, alors, parce que je crois que on nous donne aussi la masse osseuse avec ce genre de balance.
Exactement,
vous voulez savoir combien vous avez d'os?
La masse osseuse, elle doit représenter 15%. 15% du poids de corps. Alors, elle ne fait que décroître après 30 ans, hein, bien sûr. Ouais. Et donc, ça donne des informations intéressantes, parce que si jamais votre masse osseuse est en train de diminuer un petit peu, il faut peut-être prendre un apport de calcium, de vitamine D, K, potassium, magnésium, etc.
Très rapidement, Jean-Marc, c'est quoi les conditions optimales, finalement, pour utiliser une
balance
personne, quoi.
C'est ça.
Personne nouvelle génération.
Alors, toujours au même moment de la journée, bien sûr. Alors, principalement en fin d'après-midi. Parce que c'est là où le niveau d'hydratation va être le plus stable.
Moi, je me passe toujours le matin aussi à jeun.
D'accord, c'est mieux en fin d'après-midi. Dans la même tenue, bien sûr. Si vous êtes pesé nu, Mélanie, continuez à vous peser nu. Et puis si vous avez mis un t-shirt, un short, et ben vous continuez à vous peser comme ça. Toujours sur le même sol, évidemment, parce qu'avec les carrelages, etc., il ne faut pas qu'il y ait de différence de niveau. Et puis écartez légèrement les jambes, qu'il n'y ait pas
pour que la circulation de l'électricité marche bien avec ces nouvelles balances. D'accord, ok.
Voilà. Et puis évitez les efforts trop intenses juste avant de se peser, puis s'hydrater de temps normal, éviter d'avoir la vessie pleine, évidemment.
On y pense systématiquement. Merci beaucoup Jean-Marc pour cet éclairage sur ces produits nouveaux. Effectivement, moi j'ai toujours peur que tout ce qui est très connecté comme ça, avec plein de fonctions, ce soit un peu gadget.
Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en plus.
C'est bien, voilà. Et puis franchement, vous avez les premiers produits sont à partir de 80 euros comme celui-ci.
C'est belle,
et après, ça monte sur la qualité professionnelle jusqu'à plus de 2000-2500.
Moi je gardais la bonne vieille avec l'aiguille qu'on peut trouver.
C'est un peu plus précis, plus on monte dans la gamme, c'est évident.
Allez, maintenant je vais me tourner vers vous, Edouard Dutour. Vous avez mis votre costume en tweed pour nous parler d'une famille qui nous passionne, les Windsor.
Exactement. Alors écoutez, aujourd'hui, pour être à la page, c'est vrai qu'il faut traverser la Manche, aller vers la perfide Albion, comme on dit, parce que plus que jamais, les Windsor sont à la mode, les Mountbatten, comme c'est écrit sur leur carte d'identité. Je ne sais pas si vous connaissiez leur patronyme. Ça vient évidemment de la famille du prince Philippe, et c'est une famille qui oscille tout le temps, entre la fin de règne, le fin du fin parfois, et puis aussi la fin de race, parce qu'il s'y passe quand même toujours des choses pas toujours catholiques, comme on dit. Alors
on
va s'amuser.
Dans la série The Crown, est-ce que vous avez vu la série?
Oui, bien sûr. Effectivement, la série The Crown nous a tout révélé. On va s'amuser ensemble de passer un peu de la couronne à la rue et voir les enseignements qu'on peut en tirer pour notre vie personnelle. Alors c'est vrai que la série est apparue en 2016 sur Netflix. On attend avec impatience la saison 5 qui sera diffusée cette année en 2022. On n'a pas encore de date. Le focus dans la saison 5, ce sera les années 90 qui sont les plus difficiles pour la reine Elisabeth. Alors on est un peu la trouille parce qu'elle est quand même très âgée. Elle a été malade
malade récemment et on se dit si en plus elle se prend la saison 5 dans les dents,
la pauvre.
Faudrait pas que ça nous la bascule de l'autre côté. Donc ça, petit conseil aussi, on épargne mamie. En ce moment, c'est pas la bonne année, vous voyez ce que je veux dire. Alors elle, c'était sa fameuse anus horribilis, hein, c'était en 1992, c'était l'année de la séparation de Charles et Diana. Donc dans le genre, nous aussi, je trouve que ça fait 2 ans qu'on traverse quand même des bonnes anus horribilis. Donc reprenez cette expression à votre compte.
C'est
ça
marche, moche, anus
ça marche toujours en société. Casez ça, c'est du latin, ça passe bien. À la fois, ça fait rigoler et ça fait scientifique. Alors, pour faire le malin aussi, placer le mot Elisabeth Debicki. Est-ce que vous savez qui est Elisabeth Debicki?
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors, Elisabeth Debicki, c'est la nouvelle Emma Corrine. Est-ce que vous savez qui est Emma Corrine?
Toujours pas.
Alors, Emma Corrine, c'était la jeune actrice qui incarnait les Didi, mais là, ils ont été obligés d'en changer parce que, comme elle vieillit. Et donc, dans la saison 5, ce sera Elisabeth Debicki, qui est une actrice australienne née à Paris, qui va incarner la Lady Di qui va très mal des années 90. Donc, ça, pareil, vous faites le malin, c'est branché.
Qu'est-ce qu'on sait sur cette
s'appelle.
Saison 5, Edouard?
Alors, écoutez, on ne sait pas grand-chose. C'est ça qui est bien. On sait évidemment que c'est cette fameuse Elisabeth qui va porter la robe de la vengeance. Pourquoi? Parce que Netflix a laissé passer, filtrer une photo où Lady Di apparaît pour la première fois dans une robe assez exceptionnelle. Mm-hmm. C'est le 20 novembre 1994 à la Serpentine Gallery à Londres. Et en fait, dans la journée, ce jour-là, le prince Gal avait publiquement admis sa trahison à la presse. Donc elle est arrivée le soir sublime, hyper sexy, plus glamour que jamais. Et donc on appelle ça la robe de la vengeance. À adopter aussi dans la vie, nos vies. Donc un petit coup de calgon avec papa, dès le lendemain vous mettez le fourreau à paillettes et puis ça rigole moins, ça marche toujours.
Ah papa, on va l'appeler papa.
Exactement, en je pense à votre mari, bien sûr.
Tout à fait, papa, ça va lui faire plaisir. En attendant, Edouard, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent si on est vraiment fan de la couronne?
En ce moment, pour être vraiment branché, il ne faut pas parler des Windsor, il faut parler des Spencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, c'est le nom de jeune fille de Diana, mais c'est aussi le titre d'un film qui est sorti hier sur Amazon Prime.
Sur Amazon
Prime. On est pile à Amazon Prime Vidéo. C'est la géniale Kristen Stewart qui incarne évidemment la princesse des cœurs, des cœurs brisés surtout, parce que là encore, Pablo Larraín, qui n'est pas son premier biopic, puisqu'il avait fait un Jackie, il a fait un Jackie Kennedy, plonge dans ses années 90, ces fameuses. Et là, dans le dernier week-end à Sandringham House, qui est une des baraques de campagne de la famille, et c'est encore
bicoques.
Là l'année de 91, juste avant la séparation avec le prince.
Bon, qu'est-ce qu'on retient de ce film, Spencer?
Alors, on retient évidemment
qu'il est réussi.
C'est très réussi parce que c'est la femme derrière l'icône, c'est ses tourments, c'est sa quête de liberté, sa rébellion contre le protocole, mais aussi la renaissance d'une princesse de Galles par le vêtement, qui sera son arme de séduction massive, ou en tout cas son arme de communication massive, parce qu'on passe d'une princesse très jeune avec un look rasoir, ou déjà mémère, ou trop de coucou.
Un peu ringarde.
Voilà, ringarde, à une diva du glamour, à fourreau, à paillettes. Donc vous, là encore aussi, pensez que le vêtement est parfois une bonne arme en entreprise, en famille,
sûr, en
ou
couple.
En amour. C'est une arme de communication, de séduction, et on peut utiliser ça pour faire passer des messages.
Et on aura un fourreau à paillettes demain.
Moi, la semaine prochaine, je viens comme ça.
D'accord, moi j'ai aucun problème au travail. Dernier détail pour la fin, Edouard.
Alors, le dernier détail, vous savez qu'en la matière, c'est souvent notre ami Stéphane Bern, que j'embrasse fort, qui a le dernier mot et le juste mot. Il a déclaré, évidemment, il a aimé le film, Stéphane, il a déclaré qu'il aimait ce film parce qu'il s'appelle Spencer, et il dit on ne guérit jamais de son enfance. Et chez Diana, la peur de la trahison vient de là. Et non pas, vous savez, elle était boulimique, anorexique, on parlait de poids tout à l'heure, et en fait, ce n'est pas tellement la trahison de Prince Charles, c'est que sa mère était partie avec un autre homme pour vivre une histoire d'amour. Et donc Stéphane Bern trouve que c'est tout à fait juste de parler de Spencer. Donc on oublie les Windsor et on adore les Spencer et vous êtes à la mode.
Et voilà. Ça sera fait dès ce soir sur la plateforme que vous avez citée. Merci beaucoup Edouard pour cette chronique pleine d'infos et merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour?
Alors Julia, demain on va se poser cette question. Que savez-vous vraiment des bonnes manières? Êtes-vous si bien élevé que cela en réalité? Alors ça fait 2 questions, mais vous avez compris l'idée. Aurène fait non de la tête, on verra. On va tout revoir ensemble. Les basiques, comment bien se comporter au restaurant, devant la note, devant l'addition. Que peut-on dire au téléphone ou non? Quelles sont les erreurs de langage que nous commettons le plus souvent? On va tout reprendre ensemble, alors soyez au rendez-vous.
Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.